Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Samuel Blumenfeld. D'abord parce que nous avons adoré son livre, vraiment
merci beaucoup,
adoré.
Merci beaucoup.
On ne va pas commencer par parler de Steve McQueen tout de suite. On va d'abord parler de vous. Alors Samuel, vous êtes critique cinéma au Monde.
Oui.
Et vous avez déjà écrit plusieurs livres, enfin en tout cas un très important sur le cinéma yiddish, sur la vie de Michal Wazinski, qui était un réalisateur qui a réalisé un chef-d'œuvre, le Dibouk.
Oui.
Alors, et ce livre s'appelait L'homme qui voulait être prince.
Mais c'était autant un livre de cinéphilie qu'un livre romanesque. C'est qu'en l'occurrence, j'imagine que très peu de personnes ici savent qui c'est, c'est normal, il n'y a pas de problème. Michal Wazinski est donc un metteur en scène polonais. J'essaie de faire très 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 court, mais suffisamment long pour que ça vous intrigue. Donc c'était un metteur en scène polonais, c'est en fait le metteur en scène polonais le plus populaire avant-guerre. C'était un petit peu, toute proportion gardée, le Steven Spielberg de la Pologne d'avant-guerre. Mais nous étions en Pologne avant-guerre, pas Hollywood, attention. Donc c'est quelqu'un qui a réalisé une quarantaine de longs-métrages entre 1929 et 1939. À l'époque, il était très fréquent de réaliser 4-5 films par an. Les productions, de toute façon, étaient très légères, en studio, et les tournages duraient une semaine. Et il est connu, dirons-nous, dans les histoires du cinéma pour un seul film qui s'appelle Le Dibouk et qui est le film le plus emblématique de la courte histoire du cinéma yiddish. Cela ne suffit pas à écrire une biographie. Ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est qu'en fait, j'avais remarqué... Le Dibouk, il faut que vous compreniez que pour un jeune homme de ma génération, et a fortiori pour la génération qui me précède, mais pour un jeune homme de ma génération, donc on va dire... né au début des années 60, élevé dans une famille juive ashkénaze, le Dibouk, c'était le film qu'on vous emmenait voir à la cinémathèque quand il passait, parce qu'en fait, c'était le film où vous aviez l'idée la plus précise de ce à quoi vos grands-parents, arrière-grands-parents, en Pologne, avaient pu ressembler. Or, le cinéma a cette chose-là, très importante, qui est que c'est un médium de préservation. Et bien souvent, c'est le cinéma est le seul moyen que vous avez pour savoir à quoi ressemblait la vie à une certaine époque et quel visage avaient les gens à cette époque-là. Et là, en raison des circonstances particulièrement dramatiques que vous imaginez, ce film-là avait une importance capitale, dirons-nous, dans mon histoire. Maintenant, de manière tout à fait par hasard, je tombe sur une notule dans une histoire du cinéma où j'apprends que Michal Wazinski avait été le numéro 2 des productions Brownstone en Espagne dans les années 60. Les productions Brownstone, c'est une chose très très à part dans l'histoire du cinéma. Samuel Brownstone était en fait le neveu de Trotsky. C'était un producteur originaire de Bessarabie, établi aux États-Unis, et qui était allé en Espagne, où il était devenu producteur, et en fait, il bénéficiait de l'argent de Dupont de Nemours, dont l'argent était bloqué en Espagne, donc ne pouvait pas sortir, et aussi avait tout le soutien logistique de Franco. Il a produit 4 super productions qui sont les films les plus chers de l'histoire du cinéma. Vous avez La Chute de l'Empire romain, Le Cid, donc le Cid avec Charlton Heston, la chute de l'Empire romain avec vous avez Les 55 jours de Pékin avec Charlton Heston, et vous avez La Chute de l'Empire romain avec Sophia Loren, Stephen Boyd et Alec Guinness. Ces 3 films-là sont absolument les films les plus chers de l'histoire du cinéma, dans des décors recréés en dur, donc pas en carton-pâte, et vraiment, je ne sais pas, enfin, si on devait rapporter ça en euros constants, je pense qu'on pourrait parler de budget de 250-300 millions d'euros. Vraiment, vraiment des choses absolument absurdes. Et donc, je me dis, tiens, et donc Michal Wazinski, le réalisateur du D-Book, avait été numéro 2 de ses productions. Je me disais, tiens, c'est curieux, quand même le parcours qui mène du shtetl polonais à l'Espagne de Franco, c'était assez curieux, mais jusque-là tout va bien. de manière tout à fait incidente, je me souviens d'un festival de cinéma, je tombe sur une femme qui s'appelle Norma Barsman. Donc ça nous met à la fin des années 90. Je tombe sur une femme qui s'appelle Norma Barsman. Norma Barsman est la veuve d'un cinéaste américain qui s'appelle Ben Barsman, qui est un cinéaste blacklisté. Donc blacklisté, c'est-à-dire contraint de quitter les États-Unis à cause de la liste noire de Joseph McCarthy. Et donc, comme beaucoup de réalisateurs et scénaristes américains qui avaient des accointances avec le Parti communiste, avaient été contraints à l'exil en Europe. Et Ben Barsman avait été le scénariste du Cine et de la chute de l'Empire romain. Il n'est pas crédité au générique parce qu'il était sur liste noire, donc c'était quelqu'un d'autre qui remportait les lauriers, mais c'est bien lui qui a écrit ces scénarios. Et donc, je parle avec elle et je lui dis « Ah tiens, c'est marrant, donc vous avez vécu là, etc. Alors, est-ce que Michal Vachinsky, ça vous dit quelque chose ?» Elle me dit « Ah oui, oui, bien sûr que ça me dit quelque chose. C'est celui qui détournait tout l'argent des productions Brownstone et qui se faisait passer pour un prince polonais catholique. » Je lui dis « Mais attendez, il se faisait passer pour un prince polonais catholique, mais vous savez, c'est la personne, c'est bizarre parce que c'est quand même la personne qui a réalisé le D-Book avant-guerre. » Et là, elle a cette phrase-là qui fait que j'étais obligé d'écrire le livre pour comprendre, c'est qu'elle me dit « Ah non, si vous me parlez de celui-là, ça ne peut pas être le même. » Donc je lui dis non, c'était bien le même. C'est qu'en l'occurrence, c'est quelqu'un qui, on se croirait dans un roman de Philippe K. Dick, enfin vraiment avec le cerveau qui est divisé en deux. Il y a eu une vie avant-guerre, une incarnation avant-guerre, et une autre après-guerre où il est prince polonais catholique. D'ailleurs, il est enterré à Rome en Italie, mais la cérémonie religieuse a eu lieu dans une des plus grandes églises à Madrid avec tous les dignitaires franquistes qui étaient là pour lui rendre hommage. Ce qui était quand même bien payé pour quelqu'un qui avait siphonné autant d'argent, mais brillamment aussi. Bon.
D'ailleurs, on dirait bien que vous avez une petite affection particulière pour les escrocs.
Alors,
parce que dans Au nom de la loi, on va en parler plus tard, il est beaucoup question de gentils escrocs quand même.
Alors,
et puis de gens qui s'arrangent avec la loi. Justement,
absolument,
on va parler de ça.
Absolument.
Au nom de la loi.
Absolument. Alors, moi, j'ai une fascination pour les personnages romanesques. Mais en même temps, qui n'aurait pas cette fascination? Simplement, j'ai grandi avec autour de moi des personnages romanesques. Donc, dans mon roman, il y a trois personnages centraux dans mon roman. Il y a un personnage du narrateur qui est celui d'un jeune garçon qui décrète que Steve McQueen est son frère, et qui de facto d'ailleurs le devient, parce qu'à partir du moment où on décide les choses, en fait, elles se produisent pour de bon. Vous avez un deuxième personnage qui est très important, donc, qui est Steve McQueen en personne, et un troisième personnage qui est celui du père du narrateur. Et en l'occurrence, bon, c'est un personnage qui est en partie inspiré de mon père, et en l'occurrence, mon père est quelqu'un qui a passé sa vie à faire des chasses au trésor. Donc j'ai grandi avec quelqu'un qui en partie passait sa vie à parcourir le globe pour trouver des trésors qui n'existaient pas malheureusement, mais pendant longtemps j'étais extrêmement frustré de ce particularisme paternel qui ne se matérialisait pas concrètement par un enrichissement visible, avant de comprendre plus tard, en devenant un homme, que ce particularisme n'avait de sens que parce qu'en fait, il venait romancer une vie qui autrement aurait été terne. Donc, il est bien évidemment bien plus important de romancer sa vie, en fait, que de devenir riche concrètement, puisque redevenir riche concrètement, en fait, c'est bien souvent triste. Alors que romancer sa vie, en fait, c'est un matelas de liquidité virtuelle sur lequel vous pouvez vivre toute votre vie.
Alors comment, justement, puisque vous venez de nous avouer que ce livre est inspiré de votre vie, d'une partie de votre vie en tout cas, comment Steve McQueen est arrivé chez vous, enfin, est arrivé dans votre maison, dans votre foyer?
Alors, il est, enfin, on va dire qu'il est arrivé en faisant irruption. Mais il a fait irruption, je pense, dans tous nos foyers. Je pense pas qu'il y ait une personne ici qui puisse me dire que Steve McQueen n'a pas fait irruption, si c'est dans son foyer, au minimum, dans la salle de cinéma de son quartier. Donc là-dessus, ce qui m'arrive en fait est d'une banalité affligeante. Ce n'est en aucun cas remarquable. Ce qu'on peut dire, ce qui est remarquable, c'est que la figure de McQueen soit restée aussi présente dans nos existences. Pour vous donner un exemple concret, j'étais encore à Paris ce matin et normalement j'y retourne ce soir, sauf si on veut absolument me garder. Eh bien, je voyais, il y a la chaîne TCM fait une campagne de publicité à Paris, donc sur les bus parisiens. Et en ce moment, sur tous les bus parisiens, vous avez cette campagne de publicité avec la photographie de McQueen. Donc, quand vous voulez vendre du cinéma, en fait, vous avez encore la photo de McQueen sur tout le long d'un bus parisien. Aucun autre comédien ne peut prétendre à ça. Ce qui fait le prix assez unique de McQueen. Maintenant, en dehors, certes, McQueen a fait irruption chez moi et s'est installé pour toujours, mais ça justifie pas un livre. Enfin, ça ne justifiait pas un livre. Ça en justifiait à partir du moment où je regardais le statut de McQueen différemment, le statut de Steve McQueen différemment. Or, j'ai toujours regardé le statut de Steve McQueen différemment. Je vais m'expliquer. Steve McQueen est une star de cinéma. Quand on parle d'une star du cinéma, on se retrouve immédiatement du côté de la culture de la célébrité. Je pense que la culture de la célébrité, c'est pas une chose si intéressante que ça. C'est pas le biais le plus pertinent pour aborder une star. Et quand je dis ça, je dirais que je vais dire que je parle d'autorité, puisqu'en l'occurrence, je parle d'autorité, puisque mon métier, en fait, c'est je suis journaliste, je travaille au Monde, et on me demande principalement d'écrire sur des gens célèbres, et particulièrement des acteurs, des actrices et des réalisateurs, entre guillemets, célèbres. Donc, j'ai l'habitude de fréquenter ces gens. Et je pense que le meilleur moyen de parler de ces personnes-là, c'est non pas en abordant leur vie privée, mais au contraire, en essayant de tirer un autre fil. Or, cet autre fil, il est le suivant. Et dans le cas de McQueen, me paraissait, m'est apparu très tôt, très pertinent. C'est, quand on parle d'une star de cinéma, donc je disais, vous avez l'angle de la célébrité, qui est donc l'angle le plus couramment emprunté. C'est le moins intéressant. J'ai envie de vous dire, n'allez jamais dans cette direction-là parce qu'elle est triviale, elle est décevante et elle n'est pas élevée au sens noble du terme. Quand on parle d'une star de cinéma, en fait, il faut bien entendre une étoile qui est jonchée dans le ciel. Et une étoile qui est jonchée dans le ciel, elle est à la fois inatteignable parce que trop loin, mais en même temps fondamentale parce qu'elle vous aide à vous guider. Sur votre chemin, vous vous servez des étoiles pour vous orienter, mais plus fondamentalement, le rôle d'une star de cinéma, c'est de vous aider à vous guider dans votre existence. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que Steve McQueen venait faire dans votre existence, dans la mienne, ou je dirais au-delà de ça, dans celle romancée de mon narrateur alter ego dans Au nom de la loi. En fait, guider votre existence a un sens très précis. Quand vous venez d'une famille juive ashkénaze, donc dans les années 60-70, dans une génération qui a connu la guerre, qui est née avant-guerre, qui a connu la guerre avec les traumatismes qui sont là, et qui n'a pas été traité pour cela. Parce qu'il faut bien comprendre que tous les survivants de la Shoah se sont été lâchés en rase campagne après-guerre, et puis débrouillez-vous. Il n'y a pas eu le moindre suivi psychologique pour des gens qui ont connu tous les traumatismes majeurs. C'est pas simplement le simple fait d'avoir vécu dans la peur de perdre sa vie est un traumatisme majeur. Donc on parle même pas, s'agit même pas d'arriver à la case déportation. Vous avez toute une gamme qui vous permet de comprendre facilement que ces gens-là étaient estropiés, sont sortis estropiés de la guerre. Et donc n'ont pas été aidés en conséquence. Donc moi, j'étais l'enfant de ce dysfonctionnement, au titre de plein d'autres personnes. J'étais aussi dans une famille qui était extrêmement isolée, de par son tempérament, qui vivait véritablement dans la crainte de l'autre. Et donc, quand vous êtes en fait dans une famille d'estropiés, un enfant unique, vous avez besoin de trouver des modèles. Or, le meilleur modèle que j'ai pu trouver, c'était McQueen. C'est qu'en fait, il m'est apparu très clairement qu'un acteur de cinéma, en fait, non seulement racontait votre vie, mais en fait, j'allais dire, l'anticipait et en fait, vous permettait de franchir certains écueils sans encombre. Parce que justement, lui, auparavant, on avait fait l'expérience. Alors, bien évidemment, vous allez vous demander pourquoi McQueen et pourquoi pas un autre ? Bon, d'abord, je vous dirais, c'est moi qui choisis. Donc, je choisis qui je veux. Mais il y a aussi une autre raison. C'est que l'acteur qui fait irruption dans ma vie ne fait pas irruption avec n'importe quoi. Il fait irruption avec une série qui s'appelle « Au nom de la loi ». Cette série « Au nom de la loi », en fait, elle avait d'emblée pour moi une connotation métaphysique, ou du moins, ou pour être un peu moins pompeux, une connotation symbolique extrêmement forte, qui ne renvoyait pas seulement à celle d'un tueur à gages, mais dirons-nous, mettait sa fonction à un niveau beaucoup plus élevé, qui d'instinct m'intriguait. Et simplement, dans cette collusion d'une série télévisée baptisée au nom de la loi, donc avec ce comédien l'incarnant, avec une autre loi qui est celle avec laquelle j'avais grandi, qui était celle de la loi juive, qui m'était pas imposée, mais dirons-nous, parce que ça aurait pas été intéressant, mais qui m'était plutôt transmise. Et donc quand je dis transmise, c'est-à-dire expliquée et commentée. Et donc qui faisait partie de mon armature intellectuelle. Cette collusion entre le haut nom de la loi qui était sur mon petit écran et le haut nom de la loi qui était dans ma vie quotidienne faisait que mon union avec ce comédien était inévitable. Et donc, il devenait en fait de facto un frère symbolique que je n'avais pas puisque j'étais enfant unique. Mais je pense qu'au-delà, il y avait aussi un autre élément très très important dans le cas de McQueen qui m'a toujours fasciné. McQueen est le comédien. On pourra dire plein de choses sur McQueen, qu'il était magnifique, qu'il était beau, qu'il était charismatique, enfin plein de choses. Ce plein de choses, en fait, si on les décompose, ça n'a rien d'original. Charismatique, beau, séduisant, tout ce que vous voulez, c'est le cas de plein de comédiens. Il y avait une autre chose sur McQueen, une autre chose chez McQueen qui explique en fait qu'on en parle aujourd'hui, qu'on ne parlerait de presque personne, de presque aucun autre comédien de sa génération aujourd'hui. C'est qu'il y avait une dualité fondamentale chez McQueen. Il y avait à l'extérieur cette personne qui avait été surnommée King of Cool, donc qui dégageait une décontraction absolument extraordinaire. Mais cette décontraction absolument extraordinaire, cette espèce de bien-être et cette manière d'irrésistiblement bien composer avec la vie ne pouvait être tenable qu'avec quelqu'un qui justement composait en fait assez mal avec la vie, qui avait cette dualité fondamentale, qu'en fait je pense que le King of Cool n'était absolument pas cool, absolument pas. Et c'est une chose que j'avais décelée très 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 tôt dans mon regard d'enfant, et que j'avais en fait besoin, que seul en grandissant, seulement avec l'âge, j'étais capable de l'expliquer. C'est qu'en l'occurrence, donc, il y avait cette face visible de l'iceberg McQueen, il y avait cette face plus cachée qui était au moins aussi intéressante, c'est que McQueen était quelqu'un dont la mère était une prostituée, qui n'avait jamais rencontré son père. Son père était un alcoolique, poivreau, enfin, donc il n'y a jamais eu, c'est quelqu'un qui n'avait pas de père, et qui jusqu'à un âge assez avancé, donc jusqu'au milieu de ses 20 ans, était un délinquant. Donc il n'y aurait pas eu le cinéma, il serait sans doute mort très jeune, aurait fini ses jours en prison, enfin ne serait absolument rien devenu. Mais il y avait le côté écorché vif de McQueen, pour des raisons biographiques précises, faisait que j'avais un attrait absolument irrésistible pour lui. Et au-delà de ça, je fais que d'ailleurs, on a tout cet attrait irrésistible pour ce comédien, parce que justement, il est très complexe.
Et puis tout ça se faisait aussi avec la complicité de vos parents, aussi bien du côté de votre père, qui était un peu votre compagnon de cinéma, et de votre mère, qui, elle, avait un autre attrait pour
absolument,
l'acteur,
absolument,
un attrait plus
tout
sexuel.
À fait. Tout à fait. Et j'avais, d'où d'ailleurs, mais c'est une très bonne question, d'où d'ailleurs la très 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 grande utilité d'avoir un père et une mère dans la vie. Et donc, très très déterminé. C'est une chose auxquelles je crois, un père et une mère, c'est pas indifférent. Ma mère avait un rapport de séduction avec McQueen, donc on va dire sexuel, qui passait par la sexualité, et qui donc m'a exposé très tôt à cet aspect-là dans la vie. Le fait que un homme puisse plaire de manière très forte à une femme. Du côté de mon père, il y avait une autre chose aussi que j'ai découverte, dont j'ai fait l'expérience très tôt, qui est une expérience assez commune. C'est que le cinéma, aller au cinéma avec son père, c'est souvent une expérience qu'on fait avec son père d'aller au cinéma. Mais aller dans une salle de cinéma avec son père, c'est une manière d'entamer, de poursuivre un dialogue qui autrement serait extrêmement difficile. C'est que, en allant au cinéma avec votre père, en allant voir un film, en fait, bien souvent, ce film exprime un dialogue que vous ne pourriez pas avoir, autrement. C'est là où on dit, bon, il y a toujours cette phrase qui était un petit peu cliché, qui dit, bon, quand on aime la vie, on va au cinéma. Je pense qu'en fait, on va au cinéma parce qu'on a en fait besoin de savoir à quoi ressemble la vie. Et aller voir beaucoup de films, aller voir en particulier les films de McQueen, c'était un moyen de voir dévoiler des pans de l'existence de mon père qui autrement ne m'auraient jamais été connus. Il y avait des choses qui m'ont beaucoup frappé, des choses très très marquantes dans le parcours de McQueen, qui fait que c'est pas du hasard, qui fait que vous ne choisissez pas vos films par hasard, et vous ne choisissez pas non plus les stars qui vous fascinent par hasard. Je pense que quand je dis que vous ne les choisissez pas par hasard, en fait c'est tout simplement parce qu'en fait elles vous choisissent d'une certaine façon. Et donc ce qui me frappait beaucoup, c'est que régulièrement dans beaucoup de films très marquants de McQueen, McQueen était un prisonnier. Quand vous prenez McQueen dans La Grande Évasion, vous prenez McQueen dans Guet-apens de Sam Peckinpah, dans Papillon de Franklin Schaffner, qui comme par hasard sont parmi ses meilleurs films. Et j'ai connu en fait tout un vécu de prisonnier, toute une mise en scène de l'incarcération que j'ai vu dans les films de McQueen et qui, à force de les voir au cinéma et de les revoir, fait que ces films-là ne racontaient pas seulement ces films, mais aussi racontaient autre chose. Finissaient par raconter des pans d'existence de mon père que j'aurais jamais connu autrement, dont il ne pouvait pas me parler, ou très peu, et qui tout d'un coup s'insinuait dans notre vécu et influençait à la fois notre conversation, ou du moins, ou peut-être mieux que ça, nous permettait de ne pas en avoir une. Je pense que bien souvent, aller au cinéma, quand c'est une expérience que l'on fait avec son père, c'est un moyen, en fait, d'instaurer un dialogue qui, autrement, n'aurait jamais lieu.
D'ailleurs, c'est un... Enfin, chaque étape de votre vie, enfin, de votre jeune vie, correspond à un film de McQueen. C'est un peu comme un rite.
Absolument.
D'initiation.
Absolument. Il y avait... Bon, le projet de mon roman, c'était précisément que l'existence du narrateur et de ses parents, en fait, soit le miroir plus ou moins exact de ce qui était mis en scène, des rôles qu'incarnait McQueen. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai construit le roman. Mais à partir du moment où j'instaurais un lien de famille direct entre le narrateur et McQueen, le fait qu'en fait que... il y a ce fait, pas encore noté dans les biographies de McQueen, qui était que McQueen est donc mon frère, aîné.
Qui d'ailleurs a le même âge que votre père.
Qui a le même âge que mon père, absolument. Absolument.
Il y a un petit...
Absolument. Exactement le même âge, absolument. Donc, à partir du moment où j'instaurais ce lien objectif entre le narrateur et cet acteur, il y a une histoire de famille qui s'écrit. Donc, cette histoire de famille s'écrit, en fait, s'inscrivent pas seulement dans la, en fait, plus seulement dans la légende familiale, mais en fait, tout simplement dans l'histoire de la famille, les films de McQueen. C'est-à-dire que si vous voulez. L'idée, c'est que ces films, effectivement, racontaient la vie de quelqu'un. Ils étaient exactement comme une étoile dans le ciel vous indique le chemin à suivre. Ces films, en fait, racontaient une biographie qui n'avait pas encore été accomplie.
Apparemment, il y a une forte tradition familiale dans le récit, puisque le père de votre mère était quelqu'un qui racontait très très bien les histoires, et votre mère aussi est une femme qui raconte très bien les histoires, à tel point qu'elle écrit aussi des histoires
absolument. Alors,
qui ont du mal à être publiées. Mais...
ce qui se passe, c'est que il y avait ce que l'on aussi, selon dont on ne prend pas assez la mesure, c'est la génération de juifs issus de la guerre est une génération, comme je vous avais dit, d'estropie. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Il n'y a rien de péjoratif quand je dis que c'est des estropiés. Mais c'est une génération d'estropiés. Et c'est une génération qui a, pour la plupart, été exposée à l'échec. Parce que, tout simplement, elle n'avait pas les moyens de réussir. Il y a toujours cette chose qui me gênait, par exemple, quand vous montrez un petit peu les survivants d'Alice de Schindler dans le film de Spielberg, il y avait cette idée qu'une fois que vous avez survécu, en fait, plus rien peut vous arriver, vous ne pouvez que réussir, puisqu'en fait, c'est normal, c'est une justice immanente. Ça, c'est valable au cinéma, mais dans le monde réel, en fait, non, la plupart de ces gens-là, en fait, se sont plantés. Ils se sont plantés. La grande œuvre de leur existence est d'avoir survécu, ce qui est absolument énorme. Mais sinon, après, ils se sont plantés. Et là-dessus, quand je dis ça, vraiment, il y a rien de péjoratif et il y a aucun reproche. Mais c'est une constatation. La chose sur Steve McQueen, le fait d'inclure cette star-là dans un roman familial, c'est en fait d'inclure un individu qui, lui, a réussi dans la vie. Et cet individu qui a réussi dans la vie n'aurait, lui, jamais dû réussir. Jamais. C'est pas possible. Pas quand vous êtes... pas quand votre mère est... Pas quand vous n'avez pas de père et que votre mère est prostituée. Il n'aurait jamais dû réussir. Sauf qu'il avait cette chose-là que j'ai jamais vue avant et que j'ai jamais revue après. Donc, de quelqu'un qui, devant la caméra, absorbait absolument toute la lumière. Il y avait ce truc-là chez McQueen, c'est retourner, quand vous retournerez chez vous ce soir, mettez le DVD de n'importe quel film de Steve McQueen, il n'y a que lui à l'écran, même s'il y a 10 autres acteurs autour. Mais surtout, il y a cette propriété supplémentaire chez lui, absolument incroyable, qui est que McQueen était un acteur mutique. C'était quelqu'un qui parlait extrêmement peu et qui d'ailleurs s'efforçait dans ses rôles, lorsqu'on lui mettait un scénario entre les mains, s'efforçait de couper des pages entières de dialogue pour dire non, moi j'ai pas besoin de dire ça, avec mon regard j'arriverai à le faire passer. Et ce qui d'ailleurs fait qu'en partie, McQueen est l'auteur de ces films. Il faut bien comprendre que dans un film, il y a plusieurs auteurs. Ce n'est pas seulement le metteur en scène ou le scénariste. C'est aussi le comédien, ça peut être aussi également le producteur. Mais à bien des égards, McQueen était l'auteur de ces films. Il était l'auteur, non pas en ouvrant la bouche, mais en se taisant. C'est une chose qui me stupéfiera toujours. Donc, cette personne qui avait tout pour échouer de manière absolument dramatique, en fait, avait ce don du ciel qui lui a permis d'exister et de survivre, en fait, hein, en termes de postérité, mieux que n'importe qui. Il était trop irrésistible de ne pas inclure cet individu dans ma généalogie familiale. C'était faire justice, en fait, c'est qu'elle de dire au nom de la loi, que de l'inclure.
Justement, parlons-en de votre famille, là, de votre maman, justement, qui avait un rapport particulier à la fiction.
Alors, c'est une formule qui est un peu bateau, mais en fait, qui décrit assez bien le livre, j'ai envie de dire que dans ce livre-là, tout est inventé, mais en même temps, tout est vrai. Donc, si vous voulez, je n'ai pas grandi avec une mère qui écrivait des livres. J'avais une mère qui était artiste, mais je n'avais pas une mère qui écrivait des livres. Mais en élaborant un personnage qui sait aussi bien raconter des histoires. Alors, j'avais un mère comme une père, une mère comme un père, qui savait raconter des histoires. Bon, ça, c'était pas, ça, c'était indéniable. Mais en inventant un personnage qui racontait des histoires, ce que je visais surtout, au-delà d'un aspect romanesque, c'était l'idée de quelqu'un qui n'arrive pas à faire publier ces histoires-là. C'est qu'en fait, vous n'arrivez pas, c'est que vous vous heurtez en permanence, en fait, enfin, vos actions se heurtent en permanence au mur de l'institution. C'est le cas de beaucoup de personnes. Ce qui est en fait l'expérience, c'est l'expérience de mes parents. Ça, hein, voilà. C'était.
En tout cas, à côté du père et de la mère, il y a quand même toute une galerie de portraits assez cocasses, on peut dire.
Oui.
Enfin, et en particulier, oui. Le portrait de l'oncle. De l'oncle qui a quand même été le premier à accompagner le narrateur David au cinéma. Puisque
c'est
la première fois qu'il voit Steve McQueen au cinéma dans Les Sept Mercenaires. La Grande Évasion. Alors ce personnage, justement.
Alors ce personnage, bon, il y a un personnage qui ne tombe pas du ciel. Mais de manière surprenante, je vous dirais que j'ai connu des dizaines de personnes comme ça. Je n'ai vu que des gens comme ça. Et en fait, pour qu'ils soient aussi nombreux, faut croire qu'ils ont été le produit de circonstances historiques. Il faut croire qu'à un moment, l'histoire a permis de produire de manière quasi industrielle des mythomanes. Ou du moins des mythomanes de ce talent-là. Je pense que pour une grande partie une certaine partie des Juifs d'Europe de l'Est qui ont survécu, existait en marge de la loi, c'était un moyen très commode et presque bienvenu et presque obligatoire de survivre. Simplement, ça n'a jamais donné de grands bandits. Les grands bandits, vous les trouvez aux États-Unis. Vous en trouvez certains aux États-Unis, parce que, dirons-nous, eux ont été moins traumatisés par la Seconde Guerre mondiale, mais vous les trouvez pas en France. Donc, ce que j'ai vu autour de moi, c'est en fait beaucoup de personnes qui faisaient toutes sortes d'actes en marge de la loi, du recel, du petit vol, du trafic, plein de choses en fait qui étaient extrêmement présente et tellement présente en fait qu'elle faisait partie de mon quotidien. C'était une façon de vivre pour beaucoup de personnes. Ce qui me frappe, c'est en fait ce qui est intéressant, c'est pas tant ce que ces personnes ont pu faire. On se dit, c'est qu'on a envie de dire, bon, mais c'était quel genre de trafic, qu'est-ce qu'ils faisaient dans les fringues, qu'est-ce qu'ils volaient exactement, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. En fait, tout ça est pas très très intéressant. Le trafic en lui-même est pas très intéressant parce que c'est peu dire que ce sont pas des multinationales. Vraiment pas. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de savoir comment ces gens-là se sont finalement plantés. Comment est-ce que l'aventure a pris fin? Et ça, c'est drôlement intéressant. Et là-dessus, j'avais vraiment qu'un seul exemple, donc, qui est l'un des personnages centraux de mon livre, qui est une espèce de mentor pour le narrateur, qui est celui, effectivement, qui est le premier à l'emmener au cinéma voir Steve McQueen. C'est la première fois qu'il voit McQueen en grand sur un écran de 12 mètres. Et donc, qui est un personnage, enfin bon, qui est quelqu'un, effectivement, directement inspiré de ma famille. Mais longtemps, j'essaie de reconstituer un petit peu quel était le trafic, etc. À quel moment il avait pu avoir son portrait dans François, enfin, toutes sortes de choses qui faisaient. Je me disais, mais comment, que pouvait-il faire? Avant de m'apercevoir, en fait, ce n'était pas ça qui était intéressant. Ce qui était intéressant, c'est comment il a fini et comment il a mal fini, en fait. Et il a fini de manière très, 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 très étrange, sans que personne puisse vraiment m'expliquer le pourquoi du comment. Alors qu'en fait, on ne pouvait pas me l'expliquer parce que c'était trop simple. Donc ce personnage-là, en fait, à un moment, a dû, pour des raisons judiciaires, quitter le territoire français. À force de trafic et de se faire attraper, etc., a dû quitter le territoire français et partir avec ce qu'il pouvait. Et le pays d'accueil le plus évident pour quelqu'un qui est en cavale et donc qui est originaire d'Europe centrale, c'est Israël. Et donc c'était le cas en l'occurrence de mon oncle, après moult trafic in fine assez minable, avait été contraint d'aller en Israël et avait donc une somme certaine avec lui. Et en l'espace de 6 mois, il a perdu cette somme intégralement. Et il l'a perdu en investissant tout son argent dans une usine de pull-overs. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut perdre son argent dans une usine de pull-overs? Après tout, il reste l'usine des pull-overs, ma foi, tout le monde en met. Sauf que, attention, c'est toujours ce que m'expliquaient mes parents. On me dit, mais comment il a pu, etc. Quand même, c'est quand même très, très bizarre. En fait, non, c'était pas bizarre du tout. Il fait extrêmement chaud en Israël la plupart de l'année. Vraiment, le besoin d'un pull-over est vraiment... très très anecdotique. Hein. Enfin, j'ai envie de vous dire, vous achetez un pull-over une fois, vous allez garder toute votre vie. Ça suffit, quoi. Ça suffit. Vous en aurez peut-être besoin, je ne sais pas, 3 semaines par an dans la Jérusalem, vu que c'est en hauteur. Mais sinon, vous laissez tomber le pull-over. Surtout, si le pull est en Shetland, ça gratte. Donc, ça gratte. Et donc, si vous voulez, le pull-over qui gratte dans un pays très chaud, c'est pas bon. C'est pas bon. Et donc, bien évidemment, cette usine a périclité à toute vitesse. C'était pas possible. Mais la question, c'est pourquoi quelqu'un avec, non pas une grande intelligence, mais au moins, je sais pas, une vague intelligence moyenne, a-t-il pu se commettre là-dedans? Pour une raison très très simple, en fait, et extrêmement touchante. C'est que lorsque vous venez, comme c'est son cas, d'Ukraine, où il fait très froid, lorsque vous avez eu froid toute votre vie, et donc vous n'avez pensé qu'à vous couvrir toute votre vie, je pense que le luxe ultime, la réussite absolue, c'est de construire une usine de pull-over, où vous n'aurez plus jamais froid. Voilà.
C'est un très très beau personnage.
Merci.
Et j'aimerais bien aussi qu'on parle de la figure féminine, enfin des figures féminines. Enfin, il n'y en a qu'une, en fait, c'est celle de votre mère.
Oui.
Mais il est beaucoup question aussi des figures féminines du cinéma avec Steve McQueen, justement, et en particulier Jackie Bisset et Faye Dunaway, qui sont quand même deux personnages très très importants finalement dans le développement.
Oui,
de...
oui. oui. Écoutez, il y a une autre chose aussi, c'est que toujours dans une espèce de mythologie du cinéphile que nous avons tous été, on a tous l'idée, alors bon, quand c'est un homme, c'est plus facilement une femme, quand c'est une femme, c'est plus facilement un homme, mais on a tous été fasciné, attiré, et on a fantasmé donc sur des figures du sexe opposé. Enfin, pour une partie des spectateurs et spectatrices. Ça, c'est une expérience classique du cinéphile. Moi, avec McQueen, où donc à un moment, bah, j'étais plus dans un rapport de fascination avec McQueen, mais j'étais dans un rapport de vis-à-vis, ou du moins de quelqu'un qui me parlait. Moi, je ne pensais pas à la star, j'ai toujours vu cette star-là comme me parlant. Ou du moins, c'est l'idée, c'est le postulat du roman. Il y a l'idée que dans certaines stars féminines qui ont marqué des films de McQueen, je dirais deux principalement, qui sont Jacqueline Bisset en Bullitt et Faye Dunaway dans l'affaire Thomas Crown, qui sont deux des plus belles femmes qu'on a pu voir à l'écran. En vitrine, on a, avec beaucoup de bon goût, mis Natalie Wood avec Steve McQueen, ce qui est vraiment pas mal. Et c'est un film que je n'ai pas vu. Enfin, plutôt, c'est un film que j'ai vu très, très tard. C'est très, très tard. Donc, ce n'est pas un film qui fait partie... Et donc, le film n'est pas évoqué dans mon roman parce que ce n'est pas un film qui fait partie... La mythologie McQueen, bon film au passage, mais c'est pas pareil. Mais Natalie Wood, c'est pas mal. Hein. Je suis pas, enfin, je veux dire, ce n'est en aucun cas répréhensible. Mais ce qui s'est passé, je dirais, dans mon cas, alors on va dire bon, bah, puisque c'est mon roman était un roman d'éducation, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que Jacqueline Bisset et Faye Dunaway ont instauré et induit des standards de féminité que je n'ai jamais pu casser auparavant. Souvent, on dit, voilà, on est toujours amoureux de sa mère, etc. On cherche une femme qui ressemble à votre mère. Bon, c'est possible, hein, c'est possible. Mais moi, dirons-nous que les standards de féminité qui ont été instaurés à partir de ces deux films que j'ai vus donc à un âge très jeune et donc très influençable, et donc, enfin, dirons-nous, à un moment où des choses se fixent, font que j'ai toujours été à la recherche de femmes qui étaient de ce genre-là. Ce qui n'était pas facile d'ailleurs, hein, c'était pas facile, mais fait que pas seulement ma sexualité, mais au-delà de ça, dirons-nous, les choix de partenaires féminins, enfin mes goûts féminins, ont été fixés irrémédiablement par ces deux films. Parfois, je me demande, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais vu, je ne sais pas moi, si ça avait été, s'il avait fait Tarzan au cinéma, ou Dieu sait quoi, je ne sais pas ce qui serait passé. Mais il s'est passé qu'à partir de Jacqueline Bisset et Faye Dunaway, s'établit une espèce de mixte où, en fait, je ne pouvais plus regarder que des femmes extrêmement féminines et souvent avec des taches de rousseur. C'est comme ça. Et bien évidemment, ça s'est terminé ainsi. Hein, c'est pas...
Bon, enfin, en tout cas, le grand chagrin de votre vie, c'est quand même la mort de Steve McQueen, quand même, dans les années 80. Et ça correspond aussi à votre entrée dans l'âge adulte, puisque vous aviez 20 ans.
C'était extrêmement problématique, la mort de McQueen. Parce qu'en fait, même si elle était lancinante, on savait qu'il était malade. Bon, entre quelque chose qui est lancinant et quelque chose qui arrive pour de vrai, c'est pas du tout la même chose. Dans mon cas, c'est la première expérience de deuil. Donc, c'est, bah, comme toute expérience de deuil, elle est extrêmement pénible. Donc, bon, d'abord, il y a ça. Ensuite, bah, tout d'un coup, comment vous faites quand vous êtes habitué à marcher avec un ciel jonché d'étoiles et tout d'un coup, c'est la nuit noire? C'est drôlement compliqué, vous vous retrouvez tout seul. Donc, ça n'a pas été facile. J'y suis arrivé, mais ça n'a pas été facile. J'ai eu du mal à anticiper le jour d'après, en fait, après la mort de McQueen. Surtout qu'il est mort à 50 ans, donc véritablement très jeune. Et bon, l'autre chose aussi, c'est que longtemps, je me suis dit, bon, McQueen est mort à 50 ans. Mais après tout, bon, certes, il est mort, mais en fait, bon, il me reste entre 20 et 50 ans. Ce sont des années qu'a vécu McQueen. Ce qui me pose vraiment problème, c'est lorsque je dépassais les 50 ans et que j'ai dépassé un âge que n'a pas vécu McQueen. C'est un niveau d'émancipation que j'ai jamais anticipé. Ça, c'est pas. Mais plus prosaïquement, McQueen, c'est une chose très simple, c'est la première personne de ma famille qui soit morte. C'est la première expérience de deuil. Donc bien évidemment, elle vous marque terriblement. C'est aussi simple que ça, en fait. Hein. Je veux dire, j'ai pour la première fois eu un membre de ma famille qui est mort lorsque j'avais 20 ans. C'est jeune.
Est-ce que c'est pour cela que vous êtes devenu critique de cinéma ?
Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Alors, donc la réponse est oui. Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. C'était pas. On a choisi à ma place.
Bien, à très bientôt.
Merci beaucoup. Hein, c'est un plaisir.